Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à tous, une grande tchatch consacrée aux élections régionales qui auront lieu le 6 et 13 décembre prochain après les attentats. Un pays en guerre avec un renforcement de l'arsenal répressif sans précédent, une France en état d'urgence avec une campagne pour les régionales forcément qui a changé de visage. Tout ça on en parle avec notre invité aujourd'hui Jean-Marc Coppola, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseiller municipal de Marseille et candidat de la liste d'Union Europe Écologie Les Verts Front de Gauche. La région coopérative, c'est le nom de la liste. Bonjour.
Bonjour.
Avec moi dans le studio, Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi pour animer cette émission. Bonjour Michel.
Bonjour.
Une tradition, Jean-Marc Coppola, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Drôle d'élection régionale. Drôle n'est peut-être pas le terme le plus adapté. Déjà, avant les attentats, les deux candidats donnés en tête par les sondages, Maréchal nous voilà Le Pen et Estrosi, parler de tout sauf des compétences dans un conseil régional à la charge. Désormais, la campagne a repris, mais sous le corset sécuritaire d'une France en état d'urgence. Après avoir invité en septembre l'écologiste Sophie Camard, puis en octobre le socialiste Christophe Castaner, ce devait être le tour de Christian Estrosi de participer à cette émission. Mais ni lui, ni Renaud Muselier, ni un autre candidat estampillé républicain n'ont trouvé le temps de répondre à notre invitation. Nous aurions bien sûr pu tendre le micro à Marion Maréchal, nous voilà Le Pen, très sollicité sur BFM TV, RTL et les autres autoroutes de l'info, mais la candidate d'extrême droite refuse depuis longtemps de répondre aux questions du Ravi. Tant pis pour elle, tant mieux pour nous. C'est donc vous, Jean-Marc Coppola, qui conduisez avec Sophie Camard la liste coopérative, fédérant écologistes, front de gauche et société civile qui bravait le couvre-feu démocratique. Lors des dernières élections régionales, vous aviez fédéré 6% des électeurs sous la seule bannière du Front de Gauche, EELV, rassemblant alors près de 11% des suffrages. Repoussant les appels au rassemblement dès le premier tour du PS, vous avez donc préféré l'union avec les écologistes souhaitant construire une alternative de gauche face à un gouvernement peu empressé d'orchestrer le changement. Résumons à toute vapeur votre parcours. En 83, pour vos 23 ans, vous prenez le train du militantisme en adhérant à la CGT cheminot, puis l'année suivante au Parti communiste, dont vous êtes toujours l'un des dirigeants. Des législatives aux municipales, Coppola, ce n'est pas du cinéma. Pour les Marseillais, vous êtes désormais le visage le plus connu du Front de Gauche. À trois reprises, au cours des différents mandats de Michel Vauzel, vous êtes vice-président de la région, tour à tour en charge des transports et des lycées. Place donc à une grande tchatche avec Jean-Marc Coppola, la locomotive finale.
Jean-Marc Coppola, une réaction à ce portrait à la sauce Ravi.
Bah, j'espère que vous ne m'avez pas invité par défaut, parce qu'Estrosi et Maréchal Le Pen n'ont pas voulu. Non, j'entends surtout que vous jouez le jeu, effectivement, du binôme. Binôme tête de liste, ça casse un peu les codes, c'est aussi une autre pratique de la politique. En tout cas, merci de votre invitation. Le reste est à peu près fidèle, sauf que je n'ai jamais été vice-président en charge des transports, même si je suis beaucoup investi dans les transports.
Piel qui était en charge des transports,
trois fois
c'est ça?
Non, premier mandat, c'était vice-président en charge de la jeunesse et j'ai la fierté d'avoir créé le Conseil régional des jeunes. Deuxième mandat, je n'étais pas vice-président et donc j'étais président du comité régional du tourisme. Et troisième, donc les lycées.
Ne jamais se fier aux journalistes, c'est bien connu. C'est la métaphore de la locomotive en fait qui m'a perdu.
Voilà.
Alors Jean-Marc Coppola, comme je le disais, une ambiance, un climat plutôt lourd dans le pays, avec des décisions qui ont été prises, assignation à résidence, déchéance de nationalité, légitime défense pour les policiers, révision constitutionnelle pour adapter l'état d'urgence au terrorisme et à la guerre, renforcement des moyens de la police et de l'armée. Jean-Marc Coppola, tout ça, la droite en a rêvé, les socialistes l'ont fait ?
Oui, c'est vrai que cet état d'urgence surtout à rassurer nos concitoyens qui exigent plus de sécurité, j'allais dire plus de sûreté. C'est ça la dénomination d'une des missions, la première mission d'ailleurs régalienne de l'État. C'est tout à fait légitime après ces dramatiques attentats. Sauf que effectivement, on s'aperçoit que après une législation sécuritaire, on poursuit cette escalade avec, faut le dire, une atteinte quand même aux libertés individuelles, aux libertés collectives, et on peut se poser la question, surtout parce que d'ailleurs, je fais partie de ceux qui défendent la question du droit. Les droits nationaux, le droit international. Et donc, oui, dans une démocratie telle que la nôtre, dans un pays multiculturel, métissé, mélangé, une société ouverte, il faut à la fois et faire cet exercice de sûreté pour l'ensemble de nos concitoyens sur le territoire, mais aussi de liberté individuelle et collective. Et donc je suis très préoccupé par effectivement cette escalade dans le verrouillage de la France, c'est-à-dire comment certains politiques essayent de poursuivre ce détricotage du social, du modèle social français justement. Et donc non seulement nous sommes vigilants, mais par exemple je suis complètement opposé à une révision constitutionnelle. Imaginez aujourd'hui une révision constitutionnelle avec une escalade dans des lois sécuritaires, ultra sécuritaires. D'ailleurs, on voit bien la droite et l'extrême droite en réclamer toujours plus, plus de prisons, plus de vidéos, surveillance, plus de casernes, des portiques, etc., etc. Et donc, on serait dans cette escalade et donc, ça mettrait à mal les valeurs de la République. Donc, on ne peut pas avoir le discours. Il faut défendre notre République, les valeurs de la République, et en même temps imposer ce que je pourrais dire les prémices ou en tout cas l'antichambre d'une société totalitaire.
Alors on reviendra en détail sur certaines choses, certaines décisions qui ont été prises, qui sont un petit peu étonnantes. Aujourd'hui, vous qui êtes du front de gauche, vous considérez François Hollande comme un président de gauche toujours ou...
Ça fait longtemps qu'il a tourné le dos aux valeurs et aux idéaux de gauche. Il est socialiste et j'allais dire, il n'a pas mis plusieurs mois, il a mis quelques jours simplement pour tourner le dos d'abord aux engagements qu'il avait pris lors de la campagne. Au plan économique, au plan social, il avait affiché beaucoup de courage à s'attaquer justement au libéralisme. Et le premier acte qu'il a eu, c'était une allégeance donc à Angela Merkel. Et donc ça tout le reste a déroulé. J'ai vu récemment Edgar Morin, le philosophe, au Festival du Livre à Mont-Sartou. Et je lui dis, loin de la coupe aux lèvres, entre le dialogue que vous avez eu dans un bouquin qu'il avait sorti avec François Hollande, un échange, François Hollande disait, il ne faut pas que le politique abdique devant l'économie, etc. Et c'est tout le contraire. Donc voilà. Et puis maintenant, il est dans une escalade grave, belliciste, guerrière, et dont on sait, en tout cas les Américains en avaient tiré des enseignements, que la guerre amène la guerre, la guerre amène la violence et le terrorisme, et ce n'est pas la voie qu'il faut choisir.
Alors malgré tout, La totalité des députés communistes à l'Assemblée nationale ont voté la prolongation de l'état d'urgence. Par contre, au Sénat, c'était plus compliqué. Il y a eu un débat au sein du groupe Front de Gauche. Et les écologistes sont montrés assez divisés aussi sur la question. Il y a une hésitation là, c'est-à-dire est-ce que quand on est élu de la République, on ne peut pas résister comme ça à un mouvement un peu guerrier à cet appel comme ça de sécuritaire.
Il faut le resituer sans les excuser. Il faut le resituer dans le contexte, c'est-à-dire que effectivement sous le coup de l'émotion, sous le coup du deuil, etc. C'était, je pense, répondre à l'opinion publique qui majoritairement, très très massivement et légitimement réclamait beaucoup plus de sûreté et de sécurité. Donc vous voyez d'ailleurs que le décalage, c'est qu'effectivement l'Assemblée nationale a été consultée un jour et le Sénat le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Et deux jours, un jour de décalage ont montré qu'il y avait une réflexion. Et c'est aussi ce qui me conduit à dire, même si je pense qu'il n'y aura pas de date idéale, hein, est-ce qu'on peut tenir décemment après ces événements des élections régionales alors que l'émotion, la passion l'emporteront sur la raison et la réflexion. Donc, voilà.
Vous auriez été favorable à un report des élections régionales ?
Oui, c'est en tout cas ce que pendant 48 heures je me suis dit, mais sans après dire effectivement dans 3 mois, dans 6 mois ça ira mieux, mais on voit bien le contexte dans lequel nous sommes. Donc voilà, non, je pense qu'un élu, il doit être capable de résister aussi à un certain nombre de choses. Et puis, en tout cas, moi, c'est mon engagement aujourd'hui dans cette campagne des régionales, ne pas céder d'un pouce sur les valeurs de la République, sur nos libertés individuelles et collectives, ce qui n'autorise pas à tout. J'entends bien l'état d'urgence avec le renforcement, enfin, avec le renforcement de forces de police. Moi, je préfère parler de gardiens de la paix, de justice, etc. Mais on a bien vu que les gouvernements successifs de droite et socialistes à travers les RGPP, ont sacrifié des moyens, justement, pour pas simplement sécuriser, mais aussi pour la prévention, c'est cette police de proximité et qui connaît le territoire, qui anticipe. Donc voilà, c'est aussi le résultat de tout cela.
Remettre à plus tard, c'est ce que vous auriez voulu, les élections régionales. Mettre de côté également l'idéologie pour la sécurité, c'est le choix qu'a fait apparemment le gouvernement. Ça, c'est un choix qui vous paraît payant pour le 6 décembre ?
Ah ben, il court après ce que proposent les idées, les thèses de l'extrême droite et de la droite. Et on voit qu'il s'en profite. De toute façon, les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Ça tourne le dos. Non, mais ça tourne vraiment le dos, j'allais dire, aux valeurs de la République, à la société, de vivre ensemble, de bien commun, une société de paix. Ce qui ne signifie pas, je suis pas en train de faire dans l'angélisme. Je peux ne pas être compris par un certain nombre de nos concitoyens. C'est pas de l'angélisme. Je crois que, effectivement, il faut être dur et sanctionné et être à la hauteur. Mais il faut surtout s'attaquer aux racines du mal. Et les racines du mal, c'est aussi des facteurs politique, c'est des facteurs sociaux. Quand on voit les discriminations, quand on voit les inégalités, quand on voit les injustices, et je n'excuse pas les criminels qui ont commis ces actes, mais je me dis simplement que dans la radicalisation telle qu'on peut la connaître en 2015, dont on sait que potentiellement des jeunes peuvent se trouver dans cette situation-là, eh bien, il y a des facteurs sociaux et des facteurs politiques, il faut s'attaquer à cela. Et puis, il y a la politique aussi internationale de la France. Et quand on sait que l'armée française est sur 18 territoire de tension, de guerre, etc. Très franchement, on est dans une escalade où il peut y avoir des représailles et on a ce type d'acte. Donc voilà, c'est quand même dommage que ce soit une personnalité de droite comme de Villepin qui dise attention, l'escalade dans la guerre ne peut entraîner que la guerre et la violence et n'amènera pas la paix nécessaire dans le monde. Il y a aussi à mener une politique, j'allais dire, de coopération avec les pays du Maghreb, les pays du Proche et du Moyen-Orient. Donc voilà,
pour l'instant, le citoyen a un chiffre en tête, c'est 130 victimes, et tout tourne autour de cela pour l'instant.
Bien sûr, mais il faut bien se dire aussi que malheureusement, des attentats peuvent être de nouveau perpétrés n'importe où et n'importe quand, et donc à moins de mettre un policier à côté encore, ça ne réglera rien. On a vu avec Charlie Hebdo, ça ne réglera rien à cela. Donc il faut vraiment s'attaquer, j'allais dire, aux racines du mal, voir la dégradation de notre société, le délitement de notre démocratie et de notre République, et donc mettre les moyens, changer vraiment de politique pour une politique de gauche. Quoi.
Alors je vais citer une autre personnalité de droite, hein, c'est puisqu'ils ne sont pas venus, on les fait parler. À propos de la déchéance de la nationalité pour les binationaux, donc c'est une décision de François Hollande, hein, donc qui était applaudi par le Front National, et donc une personnalité de droite, Jacques Toubon, hein, ancien ministre de Jacques Chirac, qui dit « Je considère que nous mettons le doigt sur quelque chose qui ne me paraît pas conforme aux principes républicains ». Cette mesure-là, vous la voyez comment ? Effectivement, très applaudie par le Front National, qui dit « On est entendu, enfin, mais c'est trop tard ».
Ouais, mais je le répète, ça ne résoudra pas les problèmes de fond. On voit bien que parmi les terroristes, il y a des Français de nationalité française, et donc.
Mais vous êtes contre la déchéance de nationalité ? Pour quelqu'un qui est parti combattre en Syrie, qui revient commettre des attentats ou dans l'intention de commettre des attentats, qui est appréhendé, est-ce que déchoir de sa nationalité, c'est pas une solution.
Et ça réglera quoi ? C'est-à-dire que il commettra des actes terroristes ailleurs, comme il en existe d'ailleurs aujourd'hui. On l'a vu après Paris et Saint-Denis, on l'a vu dans un certain nombre de pays africains, comme malheureusement c'est des scènes quotidiennes ou presque quotidiennes en Israël et en Palestine. Donc voilà, je crois que du coup, on est vraiment face à une globalisation des problèmes et que la question aujourd'hui de la paix, des développements et des coopérations à l'échelle de la planète sont posées. Enfin voilà, c'est les inégalités à l'échelle de la planète. On a un certain nombre de défis qui sont devant nous. Il y a les défis climatiques, écologiques, mais il y a ces défis aussi humains, sociaux, et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas les moyens de régler ça. Donc ça, oui, autant ces attentats, on voit bien que le peuple français a été touché dans sa chair, on voit bien aussi que l'ensemble de la planète et l'ensemble de l'humanité se sent touché, parce que aujourd'hui, quel est le pays qui peut être à l'abri de cela? Donc il faut bien reposer aujourd'hui la question du comment vivre ensemble à l'échelle de la planète. Et si on ne prend pas conscience de cela, j'allais dire, c'est désespérer effectivement de la politique, mais c'est peut-être une stratégie pour certains, effectivement, de désespérer des gens de la politique, qui ne votent plus, qui ne s'occupent plus de politique, puisque comme ça, ça fait le jeu des marchés financiers et des banques.
Hein. Vous pensez qu'on va là avec cette déchéance de nationalité qui est clairement affirmée par les socialistes, vers la fin du droit du sol?
Mais je crois que Nicolas Sarkozy l'a déjà bien entamé. C'est grave, puisque c'est effectivement tourner le dos au fondement de notre République, de notre pays. Et donc, c'est une escalade vers, effectivement, une société que certains souhaitent, mais elle ne le sera jamais. Monoculturelle, d'ailleurs, centrée autour d'une seule religion. Mais c'est méconnaître la richesse au fil des siècles de notre pays, et qui en a fait, à un moment donné, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la vision du monde vis-à-vis de la France, mais qui faisait de la France ce pays des droits de l'homme, ce pays des Lumières, ce pays qui avait justement ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, voilà, et qu'on a cherché d'ailleurs à imposer en imposant des démocraties, comme si on avait, nous, à imposer à certains États ce qu'il fallait faire. Ça pose aussi la question c'est la raison pour laquelle je pense que on est trop dans un rythme effréné, et qu'à un moment donné il faut se poser pour tirer les enseignements des politiques menées en interne à l'intérieur du pays, et des politiques extérieures aussi. Je parlais de la guerre, je parle des coopérations nécessaires et des développements, et je parle aussi des relations qu'à la France aujourd'hui, qu'à l'État français, avec un certain nombre de pays qui alimentent justement les réseaux terroristes, Daesh, etc. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, et donc ça fait réfléchir, y compris à ceux qui pensaient qu'il y avait des aventures possibles avec ces pays-là.
Alors concrètement, le citoyen est confronté à des propositions multiples depuis les attentats, et même bien avant les attentats, certaines se réalisent ou vont être concrétisées par les socialistes. Je pense notamment au bracelet, à l'assignation à résidence, l'internement dans les camps pour ceux qui sont fichés S, ça c'est une proposition de certaines personnalités de la droite. Qu'est-ce que vous en pensez, l'assignation à résidence, par exemple, qui a été adoptée, le bracelet électronique pour certains, allons même jusqu'au camp, l'internement dans les camps pour certains qui sont fichés, qui seraient fichés S?
Non seulement je pense que ce n'est pas l'efficacité, mais on est dans cet engrenage où on continue de stigmatiser, d'ailleurs en même temps que j'allais dire, il y a ces fichages, etc., il y a de la stigmatisation, il y a de l'amalgame aussi, voulu, et donc on est loin des solutions, y compris pour s'attaquer véritablement à ces jeunes qui sont dans un processus de radicalisation. C'est tout le contraire de ce que je propose, de ce qu'on peut proposer en termes d'éducation, d'éducation et d'éducation populaire, de culture qui permet aussi, j'allais dire, de voir de construire du vivre ensemble, de construire de l'humanité. Je ne crois pas, moi, à l'idée qu'un individu est irrécupérable. Je crois au contraire, peut-être naïvement d'ailleurs, que tout le monde peut être récupérable, mais à la condition effectivement d'en mettre les moyens. Ça, ce ne sont que des artifices sécuritaires. Regardez ce que propose Christian Estrosi aujourd'hui. 250 millions, alors que la région justement n'a aucune compétence en la matière. 250 millions...
Pour la sécurité.
Pour le sécuritaire, construire des rénover des casernes, construire des commissariats, construire des prisons, mettre des portiques à rayon X, etc., etc. Moi, je suis pour plus d'écoles, pour combattre justement le phénomène qui fait qu'à un moment donné, des jeunes peuvent s'isoler, peuvent se radicaliser. Par exemple, la question de la rupture scolaire, du décrochage scolaire. Je trouve que ce qui est fait par l'Éducation nationale est microscopique par rapport à ce qu'il faut faire. Et ça peut commencer tôt, ça peut commencer à 13, 14 ans. On me dit que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais n'empêche qu'il y a des gamins qui décrochent et qui sont dans la rue et qui sont les proies. Qui proient d'ailleurs au réseau mafieux, et on sait les liens qui existent entre les réseaux mafieux, terroristes, etc. Je crois que vraiment, il faut que... moi, s'il y avait un élément, un objectif urgent, c'est de protéger et d'aider justement notre jeunesse à ne pas tomber justement dans cet isolement. Et je suis loin d'ailleurs de généraliser, parce que la majorité des jeunes sont justement sur des valeurs humaines, sont sur des valeurs de paix, sont sur des valeurs de respect, de dignité, etc. Mais il faut pouvoir le faire, et c'est ça la question de l'égalité, de faire vivre la question de l'égalité en France, à tous, à toutes, de devoir le faire. C'est ça le rôle de la politique aujourd'hui.
Alors comment combattre des équations très simples, mais qui portent et aussi ce soupçon, ce procès en angélisme qui est fait à la gauche, et à la gauche que vous incarnez en particulier, à savoir des glissements du type réfugié égale immigré, immigré égale clandestin égale terroriste. Comment, aujourd'hui, dans le temps politique qui est le nôtre, on peut aller à l'encontre de pareil cheminement?
Ben, il faut beaucoup de discussions, beaucoup de pédagogie. Lorsque ces attentats ont eu lieu, on a de suite suspendu effectivement la campagne en termes de distribution de tracts, d'appel à voter, etc. Mais nous n'avons pas du tout abandonné le terrain parce que les gens avaient envie de parler, les gens avaient envie de savoir ce que nous pensions, ce que nous proposions. Nous devions aussi entendre, justement.
Parce qu'il y a eu, il peut y avoir des activistes islamistes qui passent effectivement sur des filières d'immigration qui essayent de rentrer dans territoire. Alors, comment répondre à ça, si ce n'est par des politiques sécuritaires?
On pense que justement, avec les politiques sécuritaires, avec la fermeture des frontières, avec cette multiplication de prisons, d'enfermement des uns et d'opposition surtout des uns envers les autres, au point de se méfier justement de son voisin, au point de se méfier de celui qu'on va croiser dans la rue, dans un transport, etc. Mais dans quelle société on va vivre? On va tous se regarder avec beaucoup de suspicion. On va attiser encore plus la division, les oppositions, au lieu de rassembler. Et donc, oui, ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation, beaucoup d'ouverture d'esprit, et de se donner aussi les moyens de sécuriser les gens sur l'ensemble du territoire. C'est pas incompatible. Il faut accepter de devoir vivre dans une démocratie et dans un pays tel que le nôtre, mais avec ces risques, oui, qui existent, et bien entendu, ce risque qui existe, qu'il faut limiter, qu'il faut cantonner, c'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper. Et anticiper, ça, je le répète, c'est s'attaquer au mal par la racine. Alors c'est vrai qu'il y a cette exigence, et en même temps cette exigence d'urgence, de rapidité à répondre. Si on croit qu'on va résoudre cela parce qu'on fermera les frontières, parce qu'on n'accueillera plus les réfugiés, etc., de toute façon, on ne pourra pas le faire. Et qui que ce soit qui puisse le dire, ne pourra pas le faire. On n'empêchera pas des mouvements d'immigration qui seront peut-être encore plus importants que ceux que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils partent contre leur gré, mais ils partent parce qu'ils sont dans des tensions, dans des territoires en guerre, dans des territoires en tension. Et on sait très bien que demain les défis climatiques risquent d'entraîner des immigrations encore beaucoup plus fortes. Donc la question se pose, et c'est à travers la COP21, ça peut être un moyen et un moment de le faire, à comment chacun puisse vivre dignement dans son pays, sur son territoire. Et donc, ça pose la question de la répartition et du partage des richesses, y compris à l'échelle de la planète.
Vous venez parler de la COP21, justement. Alors, une des conséquences de cet état d'urgence, une décision, quasiment l'interdiction de la totalité des manifestations. Toutes les mobilisations qui étaient programmées dans le cadre de la COP21 qui va se réunir à Paris sont interdites, y compris à Marseille. Il y avait un rassemblement qui devait se faire sur le 29 novembre qui n'aura pas lieu. Ça vous paraît légitime? Ce sont des principes de sécurité. En même temps, les métros circulent, les magasins sont ouverts. Donc,
voilà, c'est un peu à géométrie variable. On maintient la COP21 très sécurisée puisque ce sont des chefs d'État. Et puis on supprime, en tout cas on interdit les manifestations. On maintient les élections et on voit bien que pour ne serait-ce que distribuer des tracts sur la place publique, c'est de plus en plus compliqué. Et avec l'état d'urgence, ça peut encore se renforcer.
Les militants ont eu des difficultés.
Ah mais moi, la veille des attentats, c'était pas après les attentats, la veille des attentats, nous avions fait une série d'initiatives dans Marseille. Et le soir, j'avais centré tout mon propos lors de la dernière initiative sur la question de la liberté. Parce que je me disais, on est beaucoup interpellé sur le second tour, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus la liberté de choisir, de décider au premier tour pour qui nous pouvions voter. Et j'expliquais comment il nous était interdit aujourd'hui, pour un cheminot, vous imaginez, de distribuer des tracts en gare Saint-Charles. Comment il nous est interdit de distribuer des tracts sur le vieux port, parce qu'il y a un arrêté municipal qui dit qu'à moins de 100 mètres de commerce, vous ne pouvez pas distribuer de tracts. Demain, ça sera des rassemblements qui pourront être interdites. Demain, ça sera la presse qui peut être interdite, justement, pour diverses raisons. Je crois qu'on ne mesure pas l'escalade dans laquelle on peut être, et pourtant l'histoire et l'histoire de notre pays montrent que, ben oui, malheureusement, des choses se sont produites et peuvent encore se reproduire.
Jean-Marc Coppola, toutes ces décisions sont prises sous un gouvernement socialiste, et j'y reviens, c'est un peu gênant, c'est toujours un allié, sont toujours des alliés les socialistes ?
Ben, pour l'instant, j'allais dire, vous voyez bien qu'on a choisi le courage de nous émanciper au premier tour, de faire, j'allais dire, un acte de clarté et de cohérence, parce que nous l'avons entendu, beaucoup de militants, beaucoup de personnes, engagées ou pas dans la politique, nous disaient écoutez, si vous vous présentez au premier tour, puisque c'est ce type de scrutin à deux tours avec les socialistes, effectivement, le taux d'abstention, en tout cas les abstentionnistes déçus parce qu'ils se sont trahis en colère par rapport à la politique menée par le Parti socialiste, auraient boudé les urnes. Et si vous êtes capable, par contre, de faire cette liste de rassemblement avec les écologistes, le Front de Gauche, des citoyennes et des citoyens, eh bien, on en sera. Et pas plus tard que ce matin, nous avons, lors d'une conférence de presse, présenté notre comité de soutien, plus de 500 noms, des personnalités. Et je me souviens qu'une des personnalités disait « ça fait longtemps que je n'avais pas voté », vraiment un militant socialiste, qui disait « ça fait longtemps que je n'avais pas voté et vous me redonnez de l'espoir avec cette liste ».
On va venir sur la mécanique, la question des alliances et de votre choix de partir en union avec la gauche, on va dire, du PS.
Mais après, je ne fais pas d'amalgame. Pour répondre à votre question et ne pas l'éluder, c'est je ne fais pas d'amalgame entre le Parti socialiste et malgré ses dérives libérales et en même temps la droite et l'extrême droite, pour les avoir côtoyés pendant 18 ans.
Je voulais avant d'intégrer les régionales et vraiment la deuxième partie d'émission. Un des acteurs quand même dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission sur les musulmans quand même. Est-ce qu'il faut que les musulmans se désolidarisent davantage encore? On a vu qu'il y a eu des rassemblements devant la mosquée de Paris, rassemblement qui a été interdit d'ailleurs pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'il faut qu'ils se désolidarisent davantage ou est-ce que c'est une manière de se stigmatiser que d'aller de condamner les attentats?
On voit bien de toute façon que dans ces attentats, il n'y a pas de symbole religieux ou communautariste.
Enfin, c'est au nom de l'islam quand même qu'ils sont faits, pas parlé par l'Itot.
Oui, mais on sait très bien qu'en même temps, c'était au nom, mais qu'en aucun cas, un des terroristes n'avait jamais mis les pieds dans une mosquée. Enfin, donc voilà. Et il ne faut surtout pas faire d'amalgame. On est dans un pays justement où la laïcité est importante, donc la liberté effectivement de religion est importante et moi je suis satisfait des initiatives prises justement par des musulmans justement pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation et d'amalgame.
D'accord. On parle aussi de fermeture de certaines mosquées dites extrémistes. Marseille, il y a eu des perquisitions, etc. Vous êtes pour la fermeture
Oui, je pense qu'il y a d'investigations à faire en la matière. Mais à condition d'ouvrir aussi des écoles, parce que c'est aussi des refuges pour certains jeunes, c'est-à-dire ce type de lieu. Donc il faut qu'il y ait en face une réponse concrète, mais une réponse qui permette...
Et vous, en tant qu'élu du terrain, vous avez constaté qu'il y avait des mosquées qui étaient plus ou moins condamnables, que la République pouvait pas bien vivre
Ça ne se voit pas comme cela. Par contre, ce que je vois, et ça c'est une réponse qui peut paraître vraiment simple, c'est que quand je discute encore hier avec des associations de jeunes dans les quartiers nord, dans les cités, vous savez ce qu'ils réclament? Ils se réclament déjà un lieu pour se retrouver, un lieu où leurs associations peuvent vivre et fonctionner, un lieu où des parents d'ailleurs qui font du soutien scolaire peuvent, et souvent ces lieux n'existent pas. Donc c'est vraiment un appel aux bailleurs à répondre à ce type de revendications toutes simples.
Vous restez quand même, Jean-Marc Coppola, avec une vision qui est largement... qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, au vu des événements dans le climat actuel, d'angélique.
C'est pas de l'angélisme, c'est que je pense que ce qui est proposé aujourd'hui nous entraîne à l'opposé justement de la défense d'une société de vivre ensemble et de.
Mais est-ce que vous constatez tout de même qu'il y a un problème avec l'organisation, ne serait-ce que l'organisation de l'islam en France? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec nos compatriotes de confession musulmane?
Non, c'est à eux d'abord à s'organiser. organisée telle qu'ils l'entendent. Et puis, dans ce pays, je le répète, où la laïcité, j'allais dire, est un des fondements, je crois qu'il faut respecter comme on respecte n'importe quelle autre religion, et surtout pas de stigmatisation.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, avec nous aujourd'hui Jean-Marc Coppola pour les élections régionales, tête de liste, donc Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, Michel Guéraud.
Avant d'en venir au régional plus directement, une question qui a été peu sur un fait qui a été peu commenté, c'est-à-dire que finalement, dans le temps politique qui est le nôtre, le pacte de stabilité a été oublié par le président Hollande. Visiblement, ça ne choque pas grand monde. La bourse a l'air même de se porter plutôt
très bien.
Ça n'effraie personne. Finalement, pour faire la guerre, on peut remettre en cause l'ordre budgétaire.
C'est vraiment la même réflexion que je me suis faite. Voilà, on est capable d'abandonner le pacte de stabilité pour un pacte de sécurité. Ça veut dire que hier, il n'y avait pas de l'argent pour la vie, il n'y avait pas d'argent pour répondre aux besoins et aux aspirations de notre peuple, de notre pays. Et puis là, subitement, on est capable de trouver de l'argent pour la guerre, pour la mort. Donc c'est plus qu'un pacte de sécurité qu'il faut, c'est un pacte d'humanité, c'est un pacte de croissance. Et donc voilà, l'argent existe, les moyens existent. Enfin, quand on voit, vous avez bien vu, même en temps normal, mais encore plus lors de ces moments tragiques, comment les réseaux sociaux fonctionnent à plein. Quand on sait que Facebook n'a payé que 300 000 euros l'année dernière d'impôts, et que ça représente 1% de ce qu'il devrait payer comme impôt s'il devait payer véritablement sur une fiscalité juste, et que de nombreuses multinationales et entreprises du CAC 40 sont dans la même situation. Je ne parle pas des 80 milliards d'évasion fiscale. Donc vous voyez qu'il y a de l'argent, mais il faut avoir le courage justement d'aller le chercher pour une juste répartition des richesses et répondre aux besoins. Donc effectivement, la même réflexion que vous. Voilà, il y a des moyens, il faut avoir ce courage politique, mais il faut savoir après, effectivement, si on défend l'intérêt général ou des intérêts particuliers.
Alors, les régionales, hein, on y arrive, le premier tour c'est bientôt, et pourtant, on continue, votre partenaire de la majorité sortante socialiste continue à vous reprocher régulièrement sur les médias, etc., votre aventure solitaire, vous reprochant face à la menace du Front National, qu'atteste sondage après sondage... Le Front National est très haut dans les intentions de vote. Il y aurait un risque à avoir fait le choix qui est le vôtre, c'est-à-dire d'une candidature Front de Gauche, EELV. Il n'y a que deux régions en France qui ont fait ce choix-là.
Mmh. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.
Ouais, les régions du Sud, exact.
Vous assumez ce choix, y compris dans la donne qui est la nôtre.
Surtout. Mmh. Surtout. Vous imaginez aujourd'hui, si on était en liste commune, quelle confusion. Avec les prises de position, justement, aujourd'hui, quelle liberté nous aurions d'exprimer une voix différente. Excusez-nous d'exister. Excusez-nous qu'on puisse se présenter à des élections avec des idées, avec des propositions, avec un projet différent de ce que proposent les autres. Et j'allais dire, même, on devrait nous remercier d'aller, parce qu'avec cette région coopérative, c'est essayer de réconcilier les gens avec la politique, avec une façon de faire la politique, avec ce que devrait faire la politique. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut faire encore plus de politique pour répondre justement à tous les défis auxquels nous sommes confrontés, défis sociaux, défis démocratiques, défis bien entendu écologiques, etc. C'est un sacré défi. Rappelez-vous quand même que la dernière période d'état d'urgence, j'allais dire, qui a duré, c'était 1958, ça a débouché sur la 5e République très présidentielle. Imaginez aujourd'hui une révision constitutionnelle avec un état d'urgence qui dure.
Il a été prorogé déjà de 3 mois.
Oui, et qui conduit à une victoire du Front National aux élections présidentielles. Mais on est dans un pays totalitaire. C'est clair, net et précis. Pour ceux qui, j'allais dire, me traiteraient d'être excessif en la matière, mais regardez l'histoire. Enfin, voilà, il faut vraiment faire attention à tout cela. Et je ne transige pas sur les moyens nécessaires justement pour assurer la sûreté de nos concitoyens.
Mais dans une campagne, dans une France en état d'urgence, la campagne est clairement nationale, en tout cas les événements l'ont nationalisée. Comment vous allez gérer ce changement? Vous gardez le même cap, le même programme, la même attitude, ou vous allez faire comme les autres candidats, c'est-à-dire finalement parler plus de national, de sécurité, etc., que des problèmes purement régionaux?
Bah, vous savez, il était déjà compliqué de mener une campagne avant les attentats sur des enjeux régionaux. D'abord parce que deux candidats particulièrement avaient nationalisé le débat, parce qu'ils s'en moquent complètement de la région, mais c'est simplement un point d'appui pour les élections présidentielles en 2017. Parce qu'en plus, ils ne connaissent pas la région, ils ne connaissent pas la compétence de la région, parce que un candidat comme Christian Estrosi, lui, pense que la région ne doit pas exister, mais il est pourtant candidat, justement, à la présidence de la région. On se demande pourquoi, mais enfin, on comprend après pourquoi il veut rester aussi président de la métropole et donc réserver les moyens de la région uniquement pour les territoires des Alpes-Maritimes. Enfin, bref, c'était compliqué. Et grâce, en tout cas, à certains médias, je pense à la presse quotidienne régionale, on avait réussi à rester un peu sur les enjeux régionaux, où les compétences agissent sur la vie quotidienne des gens, les lycées, l'éducation, la formation en lien avec l'emploi et l'économie, la question de la mobilité, des déplacements, donc des transports, c'est vraiment au cœur. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus déplacé, mais sur un plan national. Donc on est obligé forcément d'intégrer ça, parce que d'abord, il faut répondre à ces préoccupations qu'expriment les gens qu'on rencontre dans la rue ou dans des initiatives, mais en même temps montrer aussi comment, modestement, la région peut être utile pour faire vivre concrètement les valeurs de la République. Qu'est-ce que ça signifie, l'égalité, par exemple, au niveau de la compétence des lycées, quand je vois que le Front National a toujours n'a jamais voté les budgets pour l'école publique, pour les lycées publics, pour les lycées de l'égalité, pour les lycées de la République. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce lien à faire entre le régional et le national, même si effectivement je suis conscient que nous sommes dans un enjeu national, mais un enjeu qu'on retourne aussi en appelant un sursaut civique, un sursaut citoyen, une mobilisation justement pour ces élections, pour ne pas s'en laisser compter et faire en sorte que dans les urnes on retrouve ce qu'il y a dans les sondages. Parce que même les sondages, s'ils sont bien faits, c'est quand même 800 personnes, et dans les urnes sont appelés 3,5 millions d'électrices et d'électeurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Michel. Alors, sur le plan national, on a très bien compris ce qui vous distinguait du Parti socialiste et des choix du gouvernement. Mais sur le plan local, après trois mandats communs avec une majorité socialiste, quand le candidat socialiste Christophe Castaner dit « Mais moi, la liste coopérative, je suis d'accord à 80% avec ce qu'ils écrivent », vous, expliquez aux auditeurs et aux électeurs.
Les 20%.
Alors, est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Et qu'est-ce qui fait la grande différence de votre proposition avec l'autre proposition, celle du PS?
Bon, effectivement, ce n'est pas une question de vert à 80% plein ou vide. C'est la question de l'austérité. Voilà. La question de l'austérité n'est d'ailleurs pas une question d'abord économique et financière, c'est une question de renoncement. Et quand la politique renonce, eh bien, effectivement, il faut aller faire autre chose que de la politique. Voilà. Les acteurs économiques sont capables de gérer voilà, des entreprises. Si on veut gérer un pays comme une entreprise, bon, voilà, il n'y a qu'à donner les clés à ces acteurs économiques.
Jean-Marc Coppola, est-ce qu'on peut gérer une région en la gérant contre les principaux acteurs de l'économie? Moi, je pense notamment au boycott que vous avez subi la Chambre d'industrie.
Non. Une région coopérative, c'est une région qui veut travailler avec l'ensemble des acteurs économiques. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Oui, mais enfin, simplement, jusqu'à présent, ils vous écoutent pas, puisqu'ils vous invitent
même
pas.
Mais j'aurais dit ma façon de penser, parce qu'ils étaient bien contents de nous trouver quand nous sommes d'ailleurs vice-président en charge d'un certain nombre de questions. Et puis là, subitement, enfin, je me rappelle quand même quand j'étais au tourisme, tout ce qui a été fait ensemble et bien fait d'ailleurs, sur un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire, y compris au président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'était senti méprisé un jour lorsqu'il avait présenté sa candidature à la présidence du conseil de surveillance de l'aéroport de Marseille-Provence. Et je lui ai dit, vous voyez ce que ça signifie le mépris? Eh bien, voilà, le mépris, c'est ce que vous avez réfléchi longtemps pour savoir s'il devait inviter ou pas le Front National. Ils n'ont pas vu de différence d'ailleurs avec certains autres. Quand ils les ont invités, ils ont entendu leurs propositions. Vous auriez dû réfléchir un petit peu plus à une force qui compte. Voilà, donc région coopérative, c'est travailler justement avec l'ensemble justement des acteurs sociaux, économiques, etc. Donc.
Alors on a bien compris, bouclier social contre bouclier sécuritaire pour
l'un. Mais je veux revenir sur la question de l'austérité, oui. Parce que ça c'est une différence fondamentale. Enfin, quand un dirigeant politique qui est élu renonce, ne serait-ce qu'à demander ce que l'État doit à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne parle pas des baisses de dotation qui, d'ailleurs, est malheureusement ce qui est imposé à toutes les collectivités. Mais c'est aussi imposé aux services publics, c'est imposé aux familles, cette austérité. Je parle simplement que dans le cas du transfert de la compétence des formations sanitaires et sociales en 2006, l'État doit 200 millions à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est les deux tiers du budget des TER. C'est l'équivalent de la construction de 6 lycées neufs. Comment se fait-il que, parce que nous l'avions demandé, Michel Vauzel réclame ces 200 millions quand il était François Fillon le Premier ministre, et puis à partir de 2012, parce que ses amis sont au pouvoir, il ne réclame plus ces 200 millions. Voilà, c'est le genre d'acte immédiat qu'il faudra demander au lendemain des élections régionales. On ne peut pas vivre. Et moi, je propose qu'il y ait un livre blanc pour montrer les conséquences de l'austérité, pour évaluer les besoins et demander justice et réparation au niveau de l'État. Parce qu'il y a des gros sujets où, d'ailleurs, d'autres candidats créent des illusions, justement. Je pense, par exemple, au transport. Il suffirait d'être plus ferme à l'égard de la SNCF. Il suffirait de menacer la concurrence, etc. avec la concurrence pour qu'on ait un service public de qualité. Il n'y aura pas de service public de qualité si en même temps l'État ne fait pas un plan de rattrapage pour cette région et particulièrement en matière ferroviaire. Voilà, donc on fait un bout à Marseille, on fait un bout à Nice et le reste on verra d'ici 2030, mais ça va être la thrombose routière et ferroviaire dans notre région, on ne pourra plus circuler.
Michel, qu'est-ce qui ne va pas dans le bilan de Michel Vauzel, qui est votre bilan en partie? Qu'est-ce qui mérite une alternative? Qu'est-ce qu'il faut construire qui n'a pas été fait ces dernières années?
Ne croyez pas qu'on boude le bilan, puisque de toute façon, on y a participé. Mais d'ailleurs, vous formulez mieux la question que certains de vos confrères. Certains nous disent, qu'est-ce que vous pensez du bilan de Michel Vauzel? Bon, je dis, c'est pas le bilan de Michel Vauzel. C'est même pas le bilan de l'ensemble de l'équipe. C'est bien sûr qu'il y a une volonté politique, puisque c'est nous qui avons créé les conditions de. Mais c'est le bilan de notre capacité à avoir fait vivre la démocratie participative qui a permis justement ces avancées. Nous n'aurions pas eu un triplement de l'offre ferroviaire dans notre région depuis 99, si on n'avait pas mis les comités de ligne. Nous n'aurions pas eu toutes les actions culturelle, pédagogique, en direction des jeunes, qui fait que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus en avance en la matière, si nous n'avions pas créé le Conseil régional des jeunes, si nous n'avions pas eu toutes ces initiatives impliquant les jeunes eux-mêmes. Voilà. Donc c'est sept et donc subitement depuis 2012. Vous voyez à quoi ça correspond. Il faut faire moins de démocratie participative parce que sinon c'est donner la parole pour entendre des exigences et sans basis. Hein, c'est pas de dire dites-nous ce que vous voulez, on fait dans le cadre de nos compétences, dans le cadre de nos moyens. Mais là subitement, donc on donnera moins. Je me rappelle qu'au début de la construction de budget 2013, 2014, 2015, on disait bon alors sur quoi on va tailler? Est-ce qu'on remet en cause la gratuité des trains pour les jeunes? Est-ce qu'on va remettre en cause notre politique culturelle? Est-ce qu'on va remettre en cause les subventions pour les moins? Non. On n'a rien remis en cause. L'État a baissé ses dotations. Il a fallu plus s'endetter, donc emprunter aux banques pour pouvoir tenir sur les engagements que nous avions pris parce que nous ne voulions pas renier cela. Par contre, nous savons, et c'est cette expérience, donc nous prenons tout le bilan, mais nous savons aussi qu'il y a des marges de manœuvre qui n'ont pas été utilisées et que l'on peut utiliser. C'est une question de volonté politique et d'implication de notre peuple. Et moi, quand je dis le livre blanc, c'est pas nous qui allons faire le livre blanc. Moi, je réunirai les 963 maires, les départements, pour l'écrire, ce livre blanc, parce que dans toutes les communes, dans toutes dans toutes les collectivités, cette baisse de dotation, dont on sait très bien que les investissements publics, c'est 70% de l'économie régionale, eh bien, ça a des conséquences. On ne peut pas, d'un côté, rendre hommage au personnel des services publics, ceux qui ont pensé les plaies, justement, après les attentats, et puis, en même temps, les déglinguer, comme ça se passe, par exemple, à Aubagne, où j'étais ce matin, où la mairie de droite veut casser le service public de la restauration, casser les services publics en règle générale. Non, il faut être cohérent. Où les services publics sont utiles, ont été utiles, et il faut les moderniser, il faut en donner les moyens humains, matériels et financiers, ou alors ils servent à rien, mais alors à ce moment-là, on est dans une logique de privatisation. Mais une logique de privatisation, ça veut dire que chacun vivra en fonction de ses moyens et non plus en fonction d'une communauté, d'une collectivité, voilà.
Donc le bilan est bon, mais vous avez des inquiétudes sur l'orientation qui pourrait être donnée dans le cadre d'une politique d'austérité. La réforme territoriale qui change la donne hein, de la région et qui redéfinit des compétences est un boulet pour vous ou au contraire peut être un moteur d'un certain nombre de leviers pour la mandature
Fissot. Très franchement, sur la réforme territoriale, c'est franchement du grand n'importe quoi. Où on aurait eu un vrai acte de décentralisation en commençant par tirer les enseignements de 30 ans de décentralisation au niveau de la région et pour dire comment on se projette. Mais là, vous vous rendez compte, au nom des économies, il fallait réduire le millefeuille. On rajoute une feuille supplémentaire avec la métropole. On rajoute des compétences. Tant mieux, au moins il y a une cohérence. Par exemple, la région, à partir du 1er janvier 2016, va avoir l'emploi et l'économie.
Ça, c'est la loi NOTRe.
Ça, c'est la loi, effectivement, NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Donc vous avez l'éducation, vous avez la formation, vous avez l'emploi et l'économie. C'est absolument important parce que de cette façon-là, on peut véritablement s'attaquer au cancer du chômage. Voilà. Mais vous avez vu les décrets, vous, suivre pour donner les moyens, justement, aux régions d'assumer pleinement cette compétence. Et dans le même temps, la loi NOTRe supprime la clause de compétence générale, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la compétence, on ne peut plus le faire. Donc on reste dans les lycées.
Bah, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait des économies. On arrive à avoir, tout à l'heure, on reprochait aux citoyens de ne pas avoir une lecture très nette de la politique de la région.
Je sais pas comment ils peuvent s'y retrouver avec communes, intercommunalités, métropoles, départements, régions. C'est du grand n'importe quoi, mais à partir quand même de ce qui est clair pour la région, il y a des choses à faire et franchement en matière d'emploi, ça va être un levier formidable et donc à partir de la formation.
Justement, l'emploi, c'est le taux de chômage dans la région, c'est 11,5% à peu près. Le rempart anti-austérité que vous prenez, que vous rêvez de faire si vous êtes élu, c'est à l'exemple de ce que vous avez fait dernièrement à la région, c'est-à-dire une participation concrète dans une société qu'on connaît bien dans la région, c'est la SNCM, c'est-à-dire s'investir davantage, y compris financièrement.
C'est pas que financier d'ailleurs en l'occurrence là, c'était vraiment
avec un soutien pour la reprise éventuelle.
C'est un rôle politique. Je prendrais comme meilleur exemple les chantiers navals de la Ciotat. C'était voué à la fermeture dans la fin des années 80. Trois collectivités se sont investies, donc le département, la communauté urbaine et la région. Aujourd'hui, les chantiers de la Ciotat, personne ne l'avait vu il y a presque 30 ans, c'est un des plus performants chantiers de haute plaisance au monde. Il y a Miami et la Ciotat. Donc oui, l'implication de la région dans un certain nombre...
Ça va être multiplié chaque fois qu'une entreprise, une société sera menacée.
Pas forcément menacée d'ailleurs. Moi je regrette par exemple que dans les outils d'aménagement du territoire et de développement économique, la loi NOTRe n'ait pas transféré par exemple les aéroports. Pourquoi ils n'ont pas transféré ? Pour que l'État continue d'avoir la mainmise par exemple sur Nice et Marseille et privatiser demain comme on l'a vu à Toulouse ? Je trouve qu'il y a un recul de la puissance publique et au contraire, il y a besoin de plus d'intervention. C'est pas que financier, hein, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut s'impliquer dans le capital, mais c'est aussi être autour de la table pour défendre l'intérêt général. Regardez la situation effectivement de la SNCM. Enfin, un plan de licenciement qui est devant nous, c'est-à-dire au moment où le chômage est déjà très important, on va mettre encore à la porte non seulement des salariés, mais en plus avec toutes les conséquences sur leur famille, sur les emplois induits, sur l'économie, sur y compris le potentiel de développement. Je parle même pas du service public de continuité territoriale avec la Corse, je parle potentiel de développement avec le Maghreb. Et donc, en termes de coopération, mais où on va ? Après la privatisation en 2006, l'État s'est réinvesti, et là... C'est là aussi du grand n'importe quoi. Donc le rôle de la région en tant qu'acteur politique, oui, peut être utile.
En même temps, une implication financière cette fois-ci dans les scopes, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas marché et qui décident d'être rachetées par leurs employés.
Absolument.
Et là, on est quand même de l'ordre de 5000 euros par employé, c'est ça ?
Ça dépend, effectivement. Mais enfin, en tout cas.
Généralement, c'est 20 millions d'euros, c'est ce que vous préconisez par an, c'est ça, pour aider les scopes. On peut vraiment faire une économie régionale à coup de scopes comme ça?
Non, il faut pas multiplier, mais il y a des situations dans lesquelles ça peut être très utile. Deux exemples. Fralib, qui est devenu Scopti. Et c'est très efficace, ou encore la presse, Var Matin, Nice Matin. Donc voilà, il ne s'agit pas de les multiplier, mais il faut qu'on développe un peu l'économie sociale et solidaire.
L'écologie, vous venez de, on l'a rappelé en début d'émission, d'une culture communiste, vous êtes toujours d'ailleurs, vous êtes avec vos partenaires écologistes, c'est quoi alors? C'est 80% ou 100% d'accord? ITER par exemple, c'est le dossier qu'on ne met pas trop en avant, parce que vous êtes pour ITER, ils sont contre.
Oui, enfin moi je suis pour la recherche et donc à partir du moment où on est sur la recherche d'énergie alternative aux énergies carbonées, mais en même temps...
C'est un peu moins crédible là quand même.
Non, mais si on recherche des alternatives au pétrole, au charbon, etc. Et donc il faut vraiment...
Puisqu'on parle de recherche par exemple, le gars du gaz de schiste...
Non, mais on n'est pas d'accord. Donc on n'est pas d'accord avec le gaz de schiste, on est sur la même longueur d'onde.
C'est le nucléaire qui vous sépare.
C'est même pas sur le nucléaire. C'est que nous sommes attachés, les communistes, à un service public national de l'énergie pour faire vivre le droit à l'énergie. Bon, on peut avoir des différences sur la façon de mettre en œuvre cela avec eux. Mais il n'y a pas tant de différences que cela. D'ailleurs, parce que bon, vous m'avez un petit peu chatouillé avec l'idée communiste, nucléaire, les productivistes, etc. Moi, je vous invite à regarder, depuis très longtemps dans nos congrès, nous proposons d'abord une grande révolution industrielle, parce que qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de l'industrie en France, donc de l'indépendance de notre pays ? Parce que pour coopérer, il faut exister, donc il faut produire, mais produire différemment. Et ça fait longtemps que nous faisons des propositions dans un projet de société pour la France sur un autre mode de production, c'est-à-dire qui concilie développement de production utile justement à la vie, aux gens, mais qui respecte et l'humain et l'environnement. Nous sommes pour de nouveaux modes de consommation aussi. Et donc, des expériences, en tout cas des aventures comme celles que nous vivons, ça nous fait nous rapprocher encore un peu plus. Pour les écologistes, peut-être prendre un petit peu plus en compte la question sociale qu'ils ne le prenaient. Je ne dis pas qu'ils ne le prenaient pas, mais ça nous permet d'imposer aussi des critères sociaux et environnementaux dans les aides que fait la région aux entreprises. Et puis nous, de prendre encore un petit peu plus en compte aussi encore les questions climatiques, les questions d'environnement, mais sur lesquelles nous travaillons depuis très longtemps.
Alors, une réaction aussi sur quelque chose qui a pu étonner un certain nombre d'auditeurs, de lecteurs. Laurence Bujnetsky, qui était à la tête de liste des écologistes aux dernières régionale dans cette région et qui aujourd'hui se retrouve sur une liste républicain avec l'étiquette Modem derrière un ancien ministre de Sarkozy et pas des moindres puisque c'est Brice Hortefeux, Laurent Wauquiez.
Et dans une toute autre région.
Ça fait du mal un petit peu à la politique, cette espèce d'instabilité à la fois géographique et idéologique.
Ouais,
en tout cas, les écolos avec qui vous êtes, ils ne sont pas très contents de tout ça.
Oui, enfin, en même temps, c'est pas, franchement, on n'en parle pas tous les jours de cela, heureusement d'ailleurs, parce que moi je dis toujours qu'en politique, on doit avoir beaucoup de faire respecter beaucoup de valeurs, l'éthique, l'honnêteté, la probité, c'est évident. Mais la question de la cohérence est tout aussi importante. La cohérence à ses convictions, la cohérence aux valeurs qu'on défend. Après, si vous êtes fin observateur, vous aurez pu voir peut-être à travers un certain nombre de votes dans l'Assemblée régionale que c'était un petit peu le chemin à peu près naturel qu'elle...
Mais comment vous expliquez en même temps, pour prendre un petit peu sa défense, même si on n'en a pas besoin, comment vous expliquez en même temps que les nouvelles têtes ont du mal à émerger et à s'affirmer ici dans les Bouches-du-Rhône et plus généralement en PACA, c'est toujours les mêmes. C'est des longs mandats en fait. Les élus sont caractérisés ici par de très longs mandats. On va pas vous rappeler vos 3 mandats à la région, mais...
Ça me dérange pas.
De très longs mandats, donc c'est difficile aussi de venir, de se faire une place, non ?
Non, c'est pas une question. Vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Moi, je me souviens, Guy Hermier, député communiste de 78, est décédé beaucoup trop tôt, il y a une quinzaine d'années.
Qui a fait aussi de...
Ouais,
très très long mandat.
Et qui m'avait dit, j'ai mis 20 ans avant de me faire connaître. Et vous imaginez, le contexte était différent, avec une influence du Parti communiste beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et quand il m'avait dit ça, donc fin des années 90, j'ai mis 20 ans, j'étais un peu scotché, puisque je pensais qu'il avait toujours été à peu près connu. Donc c'est toujours très long, oui, effectivement. Bon, mais après, il ne faut pas tomber non plus dans la personnalisation de la politique. Moi, j'étais dans l'état d'esprit, très franchement, de ne pas faire un autre mandat. Et quand la question m'a été posée et avec insistance, parce que il faut aussi jouer un petit peu sur la notoriété des candidates et des candidats sur leur expérience, J'avais pas envie d'apparaître comme celui qui quitte le navire au moment où c'est difficile. Je m'imaginais jamais que ça allait être aussi difficile que cela. Quand je discute avec les plus anciens, ils n'ont jamais vécu une campagne dans un tel contexte. Donc je suis pas du genre à, même si on peut avoir aussi d'autres responsabilités et continuer de militer, ce qui est tout à fait mon état d'esprit. J'ai absolument pas envie d'ad vitam aeternam, d'être élu. On peut être utile et je continue de dire qu'une utilité, en tout cas, me paraît importante, c'est dans le mouvement associatif et particulièrement l'éducation populaire.
Il aura donc manqué 15 ans de présence à Wisniewski pour être tête de liste.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle recherche,
demande Michel.
Bon, une question qui va vous énerver, mais une question que beaucoup de monde se pose, on vous la pose. Le premier tour n'a pas eu lieu, d'accord, mais que va-t-il se passer au second tour et quelle sera votre attitude, en particulier vis-à-vis d'une hypothèse qui semble pas complètement inenvisageable, c'est-à-dire d'un Front National très haut en première position,
41%
d'une gauche en troisième position. Est-ce qu'il faut faire un front républicain? Est-ce qu'il faut appeler à voter Estrosi? Est-ce qu'il faut tout faire pour faire barrage au Front National ou pas?
On parle aujourd'hui de fusion technique des listes.
Non, écoutez, d'abord, le premier objectif, et je ne veux pas fuir la question du second tour, d'abord, elle est en réflexion, toujours. Mais
elle n'est pas taboue, elle est en réflexion.
Bien sûr. C'est une question, d'ailleurs, qu'on retourne aux gens qui nous la posent. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Comment réfléchissons-nous ensemble? Parce que nous sommes déjà en résistance, quelle que soit la situation. De toute façon, quand on voit, au-delà des résultats des urnes, les idées prégnantes, donc ça mérite effectivement réflexion. Notre objectif, c'est d'abord passer la barre des 10%, parce que c'est une question de liberté.
Là, selon les sondages, vous êtes à 8.
Oui, effectivement, 8, on est tributaire de ceux qui sont au-dessus de 10, et donc voilà, on n'a plus de choix.
Parce qu'à 10, on peut se maintenir.
De 10, on peut se maintenir, etc. Donc après, la question qui est posée, c'est comment continuer. Donc moi, je désespère pas, justement, qu'il y ait un sursaut citoyen, en tout cas d'électorat de gauche, qui se retrouve dans ce que nous proposons.